le moment de la chronique de François Petitpré, directeur de Énergétique 04. C'est la troisième et dernière chronique.
Bonjour à toutes et tous. Donc François, pour la coopérative énergétique 04 à Digne-les-Bains. Donc moi j'étais venu parler un petit peu de ce qu'on fait concernant l'énergie. Donc énergétique 04, c'est une coopérative citoyenne qui a pour objectif de traiter les questions de transition énergétique. Comment est-ce qu'on se réapproprie la question de l'énergie dans notre société? Donc j'étais venu vous parler de production d'énergie à partir de sources renouvelables. La semaine dernière, je vous ai parlé de maîtrise des consommations énergétiques. Et cette semaine, je viens pour vous parler de solidarité énergétique. Alors qu'est-ce que c'est la solidarité énergétique? Ben, ça a à voir avec un phénomène dont on entend de plus en plus parler, qui est la précarité énergétique. Alors la précarité énergétique, c'est quoi? C'est un phénomène qui, en fait, est assez mal défini. Alors il y a une définition officielle de la précarité énergétique. C'est quand on a de la difficulté à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire pour satisfaire ses besoins élémentaires, que ce soit à cause de l'inadaptation de ses ressources ou que ce soit à cause de l'inadaptation des conditions d'habitat. En fait, très souvent, c'est essentiellement un indicateur économique qui va être retenu pour définir ce que c'est que la précarité énergétique. C'est basé sur la part des dépenses d'énergie dans le budget complet du ménage. Donc c'est un petit peu la part des dépenses d'énergie par rapport aux revenus. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'effort énergétique. Et en France, on considère très souvent qu'on est en précarité énergétique si ce taux, donc si les dépenses d'énergie sont supérieures à 8% du revenu du ménage et que le ménage fait partie des 30% les plus modestes. Et donc ça, c'est officiellement, c'est ça aujourd'hui la définition de la précarité énergétique. Sauf que, la réalité est un petit peu plus complexe que ça. Notamment, il faut prendre en compte la réaction que pas mal de personnes ont quand elles sont en difficulté vis-à-vis de l'énergie, c'est qu'elles vont se priver d'énergie, elles vont arrêter de chauffer, par exemple, leur logement, et du coup, forcément, la part de l'énergie est plus supérieure à 8% de leur budget, puisqu'ils sont en situation de privation. Donc on voit bien que ce critère économique, en fait, il n'est pas du tout suffisant pour définir ce que c'est que la précarité énergétique. Et il faut aussi prendre en compte les conditions d'habitat, notamment l'inconfort thermique. Alors ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. On peut retenir que, par exemple, sur l'hiver 2022-2023, au niveau national, il y a à peu près 26% des ménages français qui déclarent avoir souffert du froid. Que sur ces 26% de ménages français, il y en a 80% d'entre eux qui ont déclaré que c'est parce qu'ils avaient restreint volontairement le chauffage. Et on a aussi plus de la moitié des ménages français qui déclarent qu'ils ont souffert de la chaleur en été. Et ça aussi, c'est un aspect de la précarité énergétique dont on ne parle pas encore beaucoup, qui commence à devenir de plus en plus important, mais c'est vrai qu'il fait de plus en plus chaud et du coup les gens souffrent de plus en plus de la canicule et ça peut vraiment poser des problèmes de confort qui sont très importants. Donc la précarité énergétique, ce n'est pas seulement les problèmes de chauffage en hiver. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les études montrent qu'en fait en France, on peut considérer qu'il y a à peu près 11% des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. En fait, c'est 10,8% exactement. Et donc en fait, ce chiffre global au niveau national, il recoupe des réalités très diverses, et notamment tous les territoires sont loin d'être égaux vis-à-vis de cette problématique de la précarité énergétique. Et il se trouve que notamment, nous, dans les Alpes-de-Provence, on est particulièrement touchés par ce phénomène. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir juste après. Alors, qui est concerné aujourd'hui par le problème de la précarité énergétique? Alors, quand on s'intéresse un petit peu aux différentes études qui existent sur le sujet, on voit que la majorité des personnes, on peut lire en tout cas que généralement les personnes en situation de précarité énergétique, c'est des locataires à faible revenu, que c'est principalement des personnes isolées, donc soit des personnes seules ou des familles monoparentales. C'est des personnes qui habitent plutôt dans des logements anciens, donc construits avant 1975. Et c'est des personnes qui vont être soit principalement des jeunes, avant 30 ans, soit des personnes âgées. Bon, d'expérience, moi je peux vous dire que la précarité énergétique, en fait, ça peut toucher tout le monde. Un accident de parcours, une perte d'autonomie, tout simplement l'augmentation du coût des énergies peuvent faire basculer des ménages. Nous, on voit de plus en plus de travailleurs précaires, surtout ces dernières années, donc des personnes qui ont des salaires mais qui s'en sortent plus, et des familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts parce que, parce que le coût de l'électricité a augmenté, parce que le coût du carburant a augmenté aussi, et donc tout ça fait que le poids de l'énergie dans le budget devient de plus en plus insoutenable. Nous, dans notre territoire, donc dans les Alpes-de-Haute-Provence, on a pas mal de facteurs aggravants. Déjà, on vit dans un département qui est rural. Généralement, tout est loin. Les services sont loin, la boulangerie, c'est loin, l'école, c'est loin, le travail, c'est loin. Et donc, du coup, ben, en plus de devoir chauffer sa maison, il faut mettre du carburant dans la voiture. On est un département où il y a un niveau de revenu moyen qui est quand même relativement faible. Département rural, ça veut aussi dire qu'il y a énormément de gens qui chauffent à l'électricité, encore au fuel aussi, domestique. Et ça, c'est des énergies qui, aujourd'hui, sont très, très chères. Et enfin, ben, dans Alpes-de-Haute-Provence, il y a Alpes, hein, donc il y a quand même un climat qui est assez rigoureux, notamment dans les parties montagneuses du département. En hiver, il fait froid. Et donc, du coup, ben, on a besoin de beaucoup d'énergie pour chauffer les logements. Et enfin, pour terminer, on est aussi un département qui se caractérise par un habitat qui est très ancien. Hein, donc, on a un niveau de performance générale dans l'habitat qui est finalement assez faible. Et donc tous ces facteurs-là font que dans les Alpes-de-Haute-Provence, alors il n'y a pas de chiffres vraiment récents, hein, mais on est loin des 10,8%. Hein, nous, on est plutôt à 20% de ménages, hein, qui sont en situation de précarité dans le département. Donc c'est vraiment un phénomène qui est très très important dans notre département. Le constat étant posé, maintenant je vais vous parler un peu des solutions, hein, parce que la précarité énergétique, c'est pas une fatalité, et justement c'est quelque chose contre lequel on lutte un petit peu. C'est que souvent les personnes qui sont en situation de précarité dans leur logement, elles voient pas de solution, elles se sentent un peu piégées, et en fait il faut bien comprendre que c'est pas une fatalité et qu'on peut toujours faire quelque chose. Donc chez Énergétique 04, ça fait pas mal d'années hein, qu'on travaille sur ce sujet-là. On travaille notamment en partenariat très rapproché avec plusieurs institutions. Donc on peut notamment citer parmi nos partenaires le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, qui est très actif sur la question, la Caisse d'allocation familiale aussi. On travaille avec la Direction départementale des territoires. On travaille aussi avec l'Agence régionale de santé, qui sont donc tous des organismes qui sont intéressés plus ou moins directement par la question du logement. On a également eu pas mal de partenaires privés hein, qui sont venus nous aider à construire en fait l'éventail d'actions qu'on propose. Donc on peut citer la Fondation Abbé Pierre, il y a eu l'ADEME en son temps aussi. Enfin voilà, on a réussi à construire pas mal de choses grâce à l'ensemble de ces partenariats. Donc aujourd'hui, nous on propose plusieurs approches hein, pour résoudre ce problème-là. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Alors c'est un mot un petit peu long, mais en fait c'est un dispositif qui va permettre de réaliser complètement gratuitement un diagnostic chez les personnes, chez les ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Alors ça s'articule en trois phases. Il y a une première phase, c'est le repérage des ménages en situation de précarité énergétique. Donc ça pareil, je pourrais en reparler un petit peu après, mais c'est pas quelque chose qui est évident de repérer les ménages en situation de précarité énergétique, parce que généralement ces ménages-là n'ont pas tendance à le crier sur les toits, qu'ils ont des difficultés dans leur logement. Donc des fois, faut aller vers, hein, et c'est pas toujours évident. Deuxième phase de ce service, c'est qu'on va poser un diagnostic sur la situation de précarité. Chaque situation de précarité, de toute façon, est complètement différente. Hein. Il y a des enjeux socio-économiques, il y a des enjeux techniques par rapport au logement dans lequel on habite. Hein. Tous les logements n'ont pas les mêmes difficultés, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et il y a aussi un enjeu à comprendre l'histoire des personnes, parce que l'énergie dans le logement, ça touche à l'intime. La manière dont on utilise l'énergie, elle est différente d'une personne à l'autre. On n'a pas tous les mêmes compétences. Et du coup, il faut aussi comprendre le parcours de vie des personnes, s'attacher aux besoins de chaque personne. Et donc, c'est vraiment une histoire humaine aussi qui va jouer. Donc, tout ça doit être intégré dans la partie diagnostic. Et à partir de ce diagnostic-là, c'est la troisième étape, on va pouvoir construire un plan d'action. C'est-à-dire qu'on va être amené, nous, à faire plusieurs propositions aux ménages pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour améliorer leur situation. Et derrière, évidemment, s'il y a besoin, on va les accompagner pour mettre en place ces solutions. Donc ça, c'est le premier dispositif. Deuxième dispositif qui peut prendre la suite, c'est ce qu'on appelle l'auto-réhabilitation accompagnée. Donc on va pouvoir accompagner des ménages dans leur logement pour leur faire faire les travaux d'amélioration qui sont pertinents. Alors ça peut être un peu tout, hein, réparation de plomberie, réparation d'électricité, un peu d'isolation, remplacer une fenêtre, boucher un trou, faire de la ventilation, enfin on peut tout imaginer. Et l'idée ici, c'est de bien comprendre que tout le monde peut faire, en fait. C'est pas très compliqué, les travaux, c'est juste qu'il faut avoir un minimum de compétences, un minimum d'encadrement, mais tout le monde peut faire. Et c'est ce qu'on veut essayer de montrer au travers de l'auto-réhabilitation accompagnée. On gère également ce qu'on appelle la médiation logement. Donc dans notre équipe, on a une personne, une travailleuse sociale, qui est en mesure d'assister les personnes qui sont en difficulté, notamment quand il y a des situations d'impayés. Hein. Donc dans ces situations-là, faut pas hésiter à demander de l'aide. Hein. Il y a des solutions qui existent même quand on a des dettes d'énergie importantes. Et enfin, grâce à nos partenaires, on a également la possibilité de financer un petit peu de matériaux avec ce qu'on appelle le fonds d'aide aux petits travaux des Alpes de Haute-Provence. Alors j'en viens à comment on nous sollicite. Alors ça peut être soit nous directement, on a une adresse mail qui est dédiée, qui s'appelle slim@ener04.com. Et sinon ça peut être par le biais de partenaires. Quand on est en situation de précarité, il ne faut pas hésiter à se tourner vers les travailleurs sociaux. On travaille aussi beaucoup avec les associations caritatives, avec les services d'aide à domicile, avec les centres communaux d'action sociale. J'invite toutes les personnes qui pourraient se reconnaître dans ce que j'ai décrit de la précarité énergétique à se tourner vers ces partenaires-là. Il faut bien comprendre que... Faut pas être réticent à demander de l'aide en fait. Hein. Quand on est en précarité énergétique, on est une victime. On n'est pas coupable de sa situation. Et nous, c'est ce qu'on observe, hein, c'est que généralement, il existe une forme de culpabilité, de honte parfois par rapport aux conditions de logement. Il faut bien comprendre qu'on ne vit pas dans un monde facile en ce moment. Hein. L'énergie coûte très cher et donc il ne faut pas rester en difficulté vis-à-vis de ça. Il n'y a pas de honte à avoir à être en situation de précarité. Il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide. Pour terminer, je m'adresse maintenant à nos partenaires potentiels hein, et notamment sur tout ce qui est les partenaires qui pourraient nous aider à repérer ces situations de précarité. Il y a plusieurs signaux d'alerte hein, qu'on peut observer fréquemment. Hein. Bon, évidemment, des personnes qui ont des factures d'énergie qui sont très importantes. Ça peut être aussi des personnes qui ont des problèmes de santé assez récurrents, notamment des problèmes respiratoires, hein, des mauvaises conditions de logement, beaucoup d'humidité, des moisissures peuvent générer des problèmes respiratoires. Des personnes qui aussi expérimentent des fuites, des pannes à répétition, souvent ça montre un défaut d'entretien du logement. Des personnes qui rapportent un problème d'inconfort aussi, hein, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, donc tout ça c'est des signaux. Et enfin des personnes qui ne laissent rentrer personne chez eux. Hein, la crainte de recevoir, c'est également signe qu'il y a un problème dans le logement, souvent. Si vous pensez être en mesure de repérer des situations de précarité énergétique, de la même façon, je vous invite à rentrer en contact avec nous. On a pas mal d'outils, hein, notamment pour expliquer ce que c'est la précarité énergétique, pour faciliter l'action dans ces situations-là. Donc on prendra plaisir à échanger avec vous sur la manière dont on peut travailler ensemble.